L-I-T-E-R-A-U-E-S.
Littérature. Roman.
Mémoire.
Journal.
Aujourd'hui, Robert Louis Stevenson et un extrait de L'île au trésor. Les équipages rivalisaient de vitesse pour gagner la plage. Mais mon canot avait un peu d'avance et de bons rameurs, si bien qu'il distança son concurrent. Et l'avant du canot s'étant enfoncé parmi les arbres du rivage, j'attrapais une branche et sautais dans le plus proche fourré pendant que Silver et les autres étaient encore à une cinquantaine de toises en arrière. « Jim, Jim !» l'entendis-je appeler. Mais vous pouvez deviner que je ne répondis pas. Bondissant, plongeant, me frayant un passage, je courus droit devant moi jusqu'au moment où, à bout de force, je fus contraint de m'arrêter. J'étais si content d'avoir glissé entre les doigts de Long John que je commençais à m'amuser et à regarder avec curiosité le lieu où je me trouvais sur cette étrange terre. J'avais traversé un espace marécageux, encombré de saules, de joncs et d'arbres à l'aspect exotique et singulier. J'étais maintenant à la limite d'une vaste clairière, aux ondulations sablonneuses, longues d'un mile environ, tachetées de rares pins et de nombreux arbustes rabougris qui rappelaient nos chênes, mais dont le feuillage était argenté comme celui des saules. De l'autre côté de cet espace découvert apparaissait l'une des collines, avec deux curieux saillants escarpés, éclatant de soleil. Je connus alors, pour la première fois, les joies de l'explorateur. L'île était inhabitée. J'avais laissé mes compagnons en arrière, et n'y avait rien en face de moi de vivant que des bêtes. Je rôdais au hasard parmi les arbres. Il y avait des plantes aux fleurs inconnues de moi. Je vis des serpents, dont l'un darda la tête sur le rebord d'un rocher et siffla avec un bruit assez analogue au ronflement d'une toupie. Il ne me vint pas à l'esprit que c'était un ennemi mortel et que c'était là le fameux serpent à sonnette. J'arrivais ensuite à un fourré de ces espèces de chênes, des chênes verts, comme j'appris plus tard à les nommer, qui poussaient au ras du sable comme des ronces, avec des branches contournées et un feuillage aussi dru que du chaume. Le fourré descendait du sommet de l'un des monticules de sable et s'étendait en grandissant jusqu'au bord d'un large marais plein de roseaux à travers lequel la plus proche des petites rivières s'infiltrait jusqu'à la baie. Sous l'ardeur du soleil, une vapeur montait du marais et les contours de la longue vue tremblotaient dans la buée. Tout à coup, j'entendis une sorte de remue-ménage parmi les joncs. Un canard sauvage s'envola en poussant un cri, un autre suivit et bientôt sur tout le marais, une nuée d'oiseaux criards se déploya en cercle dans l'air. J'en conclus que certains de mes compagnons devaient approcher. Je ne me trompais pas, car je perçus bientôt des voix assez distantes, mais qui devinrent progressivement de plus en plus fortes. Cela me fit grand peur. Je rampais sous le couvert du chêne vert le plus proche et m'y blottis, l'oreille tendue, sans faire plus de bruit qu'une souris. Une autre voix répondit à la première, et ensuite, celle-ci que je reconnus pour celle de Silver, reprit la même histoire et parla longtemps d'une façon continue, rarement interrompue par son interlocuteur. D'après le ton, il devait discuter âprement, avec violence même, mais je ne pus distinguer un mot. Finalement, il y eut une pause. Peut-être s'était-il assis, car les oiseaux commencèrent à se calmer et à reprendre leur place dans le marais. Je commençais à avoir l'impression que je négligeais ma tâche, puisque j'avais été assez insensé pour venir à terre avec ces bandits. Le moins que je pusse faire était de les épier. Mon devoir était évidemment de m'approcher d'eux le plus près possible, sous le couvert des arbres. Je pouvais facilement déterminer la direction où ils se trouvaient, non seulement par le son des voix, mais aussi par l'envol des oiseaux qui étaient encore suspendus en alarme sur la tête des intrus. À quatre pattes, j'avançais lentement mais sûrement vers eux, jusqu'à ce qu'enfin, par une trouée du feuillage, je pusse voir dans un petit creux de verdure, voisin du marais et étroitement entouré d'arbres, Long John Silver en tête à tête avec l'un des hommes. Le soleil tombait en plein sur eux. Silver avait rejeté son chapeau près de lui sur le sol, et sa grande figure blonde et unie, brillante de sueur, était levée éloquemment vers son compagnon. « Mon gars, disait-il, c'est parce que je t'estime fort, parce que tu vaux ton pesant d'or, tu peux m'en croire. Si je n'avais pas d'amitié pour toi, crois-tu que je serais là à t'avertir ? Les jeux sont faits, il n'y a plus rien à faire. C'est pour sauver ta tête que je te parle. Et si l'une de ces brutes l'apprenait, que m'arriverait-il, Tom ? Je te le demande. « Silver, dit l'autre, et je remarquais qu'il était rouge et que sa voix était rauque et tremblante comme une corde tendue. « Silver, tu es âgé, tu es honnête, du moins tu en as la réputation, tu as de l'argent aussi, ce que beaucoup de malheureux marins n'ont pas, et tu es courageux. Si je ne me trompe, vas-tu me dire que tu es avec cette bande de sagouins, pas toi ? Aussi sûr que Dieu me voit, j'en mettrai ma main au feu quant à moi. Si je vais contre mon devoir... » Un bruit, tout à coup, l'interrompit. J'avais découvert l'un des honnêtes matelots. Et au même moment, un autre se signalait à mon attention. Au loin sur le marais, soudain, jaillit comme un cri de colère, puis un autre cri... Et ensuite, un long et horrible hurlement. Les rochers de la longue vue en multiplièrent l'écho. Toute la bande des oiseaux s'envola, assombrissant le ciel dans son tourbillon. Et longtemps après, ce cri d'agonie résonnait encore dans ma tête. Le silence brûlant de cet après-midi régnait à nouveau, troublé seulement par le frémissement des oiseaux et le fracas lointain des vagues. Tom avait sursauté, comme un cheval sous l'éperon. Mais Silver n'avait pas bronché. Il ne bougeait pas, appuyé sur sa béquille, surveillant son compagnon tel un reptile, prêt à s'élancer. « John, fit le marin en étendant la main. « Bah les pattes, ordonna Silver qui recula d'un pas avec la souplesse et la précision d'un gymnaste exercé. « Bats les pattes si tu veux, John Silver, si tu as peur de moi, c'est que tu n'as pas la conscience tranquille. Mais au nom du ciel, explique-moi ce cri. »« Ce cri, répondit Silver en souriant, mais plus sur ses gardes que jamais. Les deux pointes aiguës de ses yeux dans sa grosse figure luisaient comme des éclats de verre. « Ce cri !» « Je crois bien que c'était Alan. » Alors, l'infortuné Tom se redressa, héroïque. « Alan, s'écria-t-il, que son âme repose comme celle d'un vrai marin. Quant à toi, John Silver, tu as été mon copain, mais tu ne l'es plus. J'aime mieux crever en faisant mon devoir. » « Vous avez assassiné Alan, c'est bien ça. Tue-moi aussi si tu peux, mais je t'en défie. » Et là-dessus, le brave garçon tourna le dos au coq et marcha vers la côte. Mais il ne devait pas aller bien loin. Avec un juron, John saisit une branche d'arbre, brandit sa béquille et lança cet étrange projectile qui, avec une force foudroyante, alla frapper le malheureux Tom, la pointe en avant, entre les deux épaules au milieu du dos. Ses bras se dressèrent, il poussa une sorte de soupir et s'abattit. S'il était légèrement ou grièvement blessé, personne ne pourra jamais le dire. À en juger par le bruit, il est probable que sa colonne vertébrale fût brisée net. Mais il n'eut pas le temps de retrouver ses esprits. Silver, agile comme un singe, même privé de sa béquille, fut sur lui en un instant. Et par deux fois, plongea son poignard jusqu'au manche dans ce corps sans défense. De ma cachette, je pus l'entendre ahanner en frappant. Je ne sais ce qu'est un évanouissement véritable, mais je sais que, pendant le bref intervalle qui suivit, le monde se brouilla devant mes yeux. Silver, les oiseaux, le sommet de la longue vue, tournèrent en tous sens devant mes yeux, et toutes sortes de cloches tintèrent et des voix lointaines m'emplirent les oreilles. Quand je revins à moi, le monstre, béquille sous le bras et chapeau sur la tête, avait repris son air habituel. Devant lui, Tom gisait inerte, mais l'assassin n'en avait nul souci. Il essuyait son poignard souillé de sang à une poignée d'herbe. Rien n'avait changé, le soleil brillait implacablement sur le marécage fumant et les hauteurs de la colline. J'avais peine à croire qu'un crime venait de se commettre et qu'une vie humaine était cruellement passée à trépas sous mes yeux. John porta la main à sa poche, sortit un sifflet et fit retentir des modulations stridentes qui portèrent au loin dans l'air chaud. Je ne pouvais bien entendu interpréter ce signal, mais il éveilla immédiatement mes craintes. Les autres allaient arriver. Je risquais d'être découvert. Deux meurtres avaient déjà été perpétrés. Après Tom et Alan, ne serait-ce pas mon tour ? Je rampai en arrière, aussi silencieusement et aussi vite qu'il me fut possible, du côté de la partie la moins touffue du bois. Ce faisant, je pouvais entendre les appels entre le vieux flibustier et ses camarades, et la proximité du danger me donna des ailes. Sitôt sorti du fourré, je courus comme jamais je n'avais couru. Peu m'importait la direction que je prenais, pourvu qu'elle m'éloignât des assassins. Et à mesure que je courais, ma peur grandissait jusqu'à devenir une sorte de panique. En vérité, j'étais complètement perdu. Comment oser, au coup de canon, rejoindre dans les embarcations ces démons encore sanglants de leurs crimes ? Le premier qui me verrait ne me tordrait-il pas le cou comme un vulgaire poulet ? Mon absence ne serait-elle pas un aveu de ma peur, c'est-à-dire de ma connaissance des crimes commis ? Tout était perdu, pensais-je. Adieu, Hispaniola. Adieu, chevalier, docteur, capitaine. Mourir de faim ou mourir sous le coup des révoltés, je n'avais pas d'autre choix. Cependant, comme je l'ai dit, je courais toujours et sans m'en apercevoir. J'étais arrivé au pied de la colline aux deux pics, dans une partie de l'île où les chênes verts formaient presque une vraie forêt par leur aspect et leur dimension. Quelques pins s'y mêlaient, qui pouvaient avoir de 50 à 70 pieds de haut. L'air semblait plus frais et plus dur que du côté du marécage. Et voici qu'une nouvelle alerte m'arrêta court, le cœur palpitant. De la pente de la colline, qui était en cet endroit escarpé et rocheuse, une averse de pierres roula et tomba en ricochant à travers les arbres. Mes yeux se tournèrent d'instinct de ce côté, et je vis une forme qui se dissimulait derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un singe ou un homme? Je n'aurais su le dire. Tout ce que je savais, c'est que c'était sombre et velu. Mais cette apparition d'épouvante me cloua sur place. J'étais maintenant, semblait-il, coupé des deux côtés. Derrière moi, il y avait les assassins et devant moi, il y avait ce monstre. Je n'hésitais pas à préférer les dangers connus aux inconnus. Silver lui-même semblait comparativement moins redoutable que cette créature des bois. Je fis donc volte-face, cherchant à me représenter de quel côté se trouvaient les canaux. Aussitôt, le monstre reparut et faisant un vaste détour, entreprit de me couper la retraite. J'étais là, certes, mais eussé-je été aussi frais qu'à mon lever, que je n'aurais pas été de taille à rivaliser à la course avec un tel adversaire. D'arbre en arbre, le mystérieux monstre filait comme un daim, courant sur deux jambes, tel un homme. Mais la façon qu'il avait de se courber en avant n'était pas celle d'un homme. Pourtant, je ne pouvais plus en douter, c'était un homme. Je me rappelais ce que j'avais entendu dire des cannibales et fus sur le point d'appeler au secours. Mais le simple fait que c'était un homme, aussi sauvage qu'il fût, m'avait quelque peu rassuré. Et ma peur de Silver s'était ranimée en proportion. Je restais donc immobile, cherchant un moyen de fuir. C'est alors que je pensai soudain mon pistolet. Je n'étais pas sans défense, et le courage me revint aussitôt. Je fis face résolument à cet homme et marchai droit à son avance. Cependant, il s'était embusqué derrière un autre arbre et devait surveiller mes mouvements. Car dès que je marchais dans sa direction, il réapparut et s'avança à ma rencontre. Puis, il hésita, recula de quelques pas, s'avança de rechef, et finalement, à mon étonnement et à ma confusion, se jeta à genoux et joignit les mains en signe de supplication. Je m'arrêtai de nouveau et lui demandai « Qui êtes-vous ?»« Ben Gunn. » me répondit-il, et sa voix était rauque et étrange, comme le grincement d'une serrure rouillée. « Je suis le pauvre Ben Gunn, je suis Ben Gunn, je n'ai pas parlé à un chrétien depuis 3 ans. » Je pus voir alors que c'était comme moi un homme blanc, et que ses traits n'étaient pas désagréables. Sa peau était tannée, même ses lèvres étaient noires et ses yeux bleus surprenaient dans une figure si sombre. De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés, il était le prince par ses haillons. Il était revêtu de lambeaux de vieille toile à voile et de vieux cirés. Et son extraordinaire costume d'arlequin tenait par un système d'attaches aussi divers que bizarre. Boutons de cuivre, liens d'osier, nœuds de filin goudronné. Autour de la taille, il portait une vieille ceinture de cuir à boucles de cuir, qui était la seule partie solide de son accoutrement. « 3 ans !» m'écriai-je. « Avez-vous fait naufrage ?»« Non, camarade, » dit-il, « marronné. » J'avais entendu ce mot, et je savais qu'il représentait un horrible châtiment assez commun parmi les flibustiers. Le condamné était abandonné sur le rivage de quelque île déserte et solitaire, avec un peu de poudre et un fusil. Marronné, il y a 3 ans, continua-t-il, j'ai vécu de chèvres, de fruits, de coquillages. Un homme, où qu'il soit, peut vivre à mon avis. Mais mon cœur a soif d'une nourriture de chrétien. N'auriez-vous pas un morceau de fromage par hasard? Non, que de fois j'ai rêvé de fromage, presque toujours grillé, et je m'éveillais ici. Si jamais je peux retourner à bord, lui dis-je, vous aurez du fromage en quantité. Cependant, il tâtait l'étoffe de ma vareuse, me caressait les mains, examinait mes chaussures, et entre ses paroles, montrait un plaisir enfantin à se trouver en présence d'une créature humaine. Mes derniers mots éveillèrent en lui une feinte surprise. « Si jamais vous pouvez retourner à bord, dites-vous, répéta-t-il, et qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ?»« Pas vous, je le sais, » fut ma réponse. « C'est bien vrai, » s'écria-t-il. « Comment t'appelles-tu, camarade ?»«
Jim, » répondis-je.
« Jim, Jim, » dit-il apparemment ravi. « Eh bien, Jim, la vie que j'ai menée, tu ne pourrais y croire. Penserais-tu, par exemple, que j'ai eu une mère pieuse à me voir ?»«
Ma foi, non, pas précisément. »«
C'est pourtant vrai, » dit-il, « remarquablement pieuse. Et j'ai été un jeune garçon très bien élevé et pieux. Je pouvais réciter mon catéchisme d'un bout à l'autre. Et si vite qu'on n'aurait pas distingué un mot de l'autre. Et voilà où j'en suis. Ça a commencé en jouant un pile ou face sur les tombes d'un cimetière. Oui, c'est comme ça que ça a commencé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et ma mère a bien prévu ce qui m'arriverait à la Sainte Femme. C'est la Providence qui m'a conduit ici. J'ai bien réfléchi à tout dans mon île solitaire. Et je suis revenu à la religion. Je ne boirai plus de rhum. Sauf un dé à coudre, en réjouissance naturellement à la première occasion, je prendrai le bon chemin et je veillerai à y rester. Et puis Jim, en regardant autour de lui, en baissant la voix, il ajouta dans un chuchotement, « Je suis riche. » J'avais maintenant la certitude que ce malheureux était fou, et je dois avoir laissé transparaître ce sentiment. Car il répéta avec chaleur « Riche, riche !» Et je peux te le dire, Jim, je ferai quelqu'un de toi, Jim. Ah, Jim, tu béniras ton étoile pour avoir été le premier à me rencontrer. Puis brusquement, une ombre passa sur sa figure et il serra plus fort ma main, levant un index menaçant devant mes yeux. « Maintenant, Jim, dis-moi franchement. Ce n'est pas le bateau de Flint ?» me demanda-t-il. J'eus une heureuse inspiration. Je pressentis que j'avais trouvé un allié et je lui répondis aussitôt. « Ce n'est pas le bateau de Flint et Flint est mort. Mais pour vous dire la vérité, puisque vous me la demandez, il y a des hommes de Flint à bord pour notre malheur. » Pas un homme avec une seule jambe, bégaya-t-il. Silver, demandai-je. Ah, Silver, c'était son nom. C'est le coq et le chef de bande. Il n'avait pas lâché mon poignet et à ces mots, il me le tordit presque. Si c'est Long John qui t'a envoyé, je suis fait, je le sais. Mais qu'est-ce qui vous attend ? « Le sais-tu ?» Je décidai sur le champ de lui raconter toute l'histoire de notre voyage et de lui exposer l'impasse dans laquelle nous nous trouvions. Il m'écouta avec le plus vif intérêt. Et quand j'eus fini, il me tapota sur la tête. « Tu es un bon garçon, Jim, » dit-il. « Et vous êtes tous dans une mauvaise passe, hein ? Faites confiance à Ben Gunn. Ben Gunn est l'homme qui vous tirera d'affaire. Mais crois-tu maintenant que ton chevalier se montrerait généreux ? Si je vous aidais,
puisqu'il est dans une passe difficile. Je lui dis que le chevalier était le plus libéral des hommes. « Mais vois-tu ?»« Oui, » répondit Ben Gunn. « Je ne veux pas d'une porte à garder ni d'une livrée de valets. Ce n'est pas ce que je veux, Jim. Ce que je veux savoir, c'est s'il est capable de me laisser, disons, 1 millier de livres qui, pour ainsi dire, sont déjà ma propriété. »« J'en suis certain, » dis-je. « Nous devions tous partager. Et j'aurai une place à bord pour le retour, » ajouta-t-il avec un regard soupçonneux. Le chevalier est un gentilhomme, m'écriai-je. De plus, si nous réussissons à nous débarrasser des autres, nous manquerons d'hommes pour aider à la manœuvre du bâtiment. Ah, dit-il, c'est vrai. Et il parut très rassuré. Maintenant, je vais te dire, continua-t-il, ce que j'ai à te dire et rien de plus. J'étais de l'équipage de Flint quand il a enterré son trésor, lui, avec 6 solides marins. Ils sont restés à terre près d'une semaine et nous attendions à bord du vieux Walrus. Un beau jour, on entendit le signal convenu et Flint apparut, seul dans son canot et la tête bandée dans un foulard bleu. Le soleil se levait, il était à l'avant de sa yole et son visage était d'une pâleur mortelle. Mais il était là et les 6 autres étaient morts, morts et enterrés. Comment il avait pu faire tout ça ? Pas un homme à bord ne put le deviner, en tout cas. Il y avait eu bataille, meurtre et mort subite, seul contre 6. Billy Bones était le second, Long John était le quartier maître. Et ils lui demandèrent où était le trésor. « Ah, dit-il, vous pouvez aller à terre si ça vous chante et y rester. Pour ce qui est du navire, tonnerre, il va repartir en chasse. » C'est ce qu'il a dit. 3 ans après, j'étais sur un autre navire quand nous passâmes en vue de cette île. « Camarade, dis-je, le trésor de Flint est là. Débarquons et cherchons-le. » Le capitaine n'était pas content, mais tous mes compagnons voulurent descendre à terre. Pendant 12 jours, nous avons cherché. Chaque jour, il m'accablait un peu plus de sarcasme. Enfin, un beau matin, ils remontèrent tous à bord. Quant à moi, Benjamin Gunn, qu'ils me dirent « Voilà un mousquet, une bêche. » Et une pioche, qu'ils dirent. Tu peux rester là et trouver le trésor de Flint, qu'ils dirent. Eh bien, Jim, je suis resté là 3 ans. Et je n'ai pas eu, pendant tout ce temps, une bouchée de nourriture chrétienne. Mais maintenant, regarde-moi. Regarde-moi bien. Ai-je l'air d'un pauvre marin devant le mât ? Non, n'est-ce pas ? Et je ne le suis pas non plus. Je te le dis. » Et il cligna de l'œil et me pinça vigoureusement. « Dis bien cela à ton chevalier, » poursuivit-il. « Il ne l'est pas non plus. » Ce sont les paroles. « Pendant 3 ans, il a été l'homme de l'île, par beau et par mauvais temps. » Et parfois il pensait à faire sa prière, que tu diras. Et parfois il pensait à sa pauvre mère, puisse-t-elle être en vie ? Mais Gunn passait le plus gros de son temps, c'est ce que tu diras, le plus gros de son temps à un travail d'une autre nature. Et alors, tu lui feras un pinçon comme ça. Et il me pinça de nouveau, de l'air le plus confidentiel.
L-I-T-E-R-A U.E.S. Littérature. Roman.
Mémoire.
Journal.